Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Canal Académie commence par cette séance un ensemble de questions constitutionnelles. La constitution d'un État, d'une nation, est importante car, comme a dit très joliment Jürgen Habermas, c'est ce qui fait tout tenir ensemble. Notre premier invité dans cette série constitutionnelle sera le professeur Pierre Delvolvé. Professeur à Paris 2 pendant longue période, une trentaine d'années, m'avez-vous dit, et un des spécialistes du droit public français, c'est-à-dire du droit de l'État. Le droit public et le droit de l'État, le droit privé et le droit du citoyen. Et les deux ensemble font la situation juridique d'un pays et d'une nation. Pierre Delvolvé, vous êtes spécialiste donc de droit public, notamment de droit des entreprises, du service public, de droit public économique, et vous êtes un des co-continuateurs d'un ouvrage que tous les étudiants de droit public de langue française connaissent sur la planète, c'est les grands arrêts de jurisprudence administrative, le long Veil et Brébant que vous continuez avec quelques collègues. Vous êtes membre de l'Institut depuis 2009 à l'Académie des sciences morales et politiques, au fauteuil numéro 8, continuant ainsi la pensée de Jean Foyer. Pierre Delvolvé, merci beaucoup d'être des nôtres. Nous allons parler un peu de la Constitution de la France, de la Constitution de 58, qui a été modifiée bien des fois maintenant, et dont la longévité est une sorte de titre de gloire, car les Français ont été des useurs de Constitution.
Oui, je vous remercie beaucoup de ce que vous venez de dire. Si vous permettez, je vais faire quelques précisions. Lorsque vous avez dit que j'étais l'un des co-auteurs des grands arrêts de la jurisprudence administrative après les fondateurs, messieurs Long, Veil et Brébant, vous avez ajouté, et quelques collègues. Non, le seul à continuer cet ouvrage avec moi, c'est le président Genevoix, qui est du Conseil d'État, alors que moi je suis de l'université. Alors, une autre précision aussi sur ce que vous avez dit auparavant, disant que la Constitution, c'est ce qui fait tenir tout ensemble. Oui et non. La Constitution structure, organise l'État, mais l'existence d'un État est à bien des égards antérieure à la Constitution, et un État a une organisation, une structure qui dépasse la Constitution. Et si importante que soit la Constitution de 1958, si longue que soit sa vie, plus de 50 ans maintenant, ce qui la met en deuxième position par rapport aux lois constitutionnelles de 1875, il y avait un État en France avant la Constitution de 1958 et toute la structure de l'État a pu être déterminée indépendamment même de dispositions constitutionnelles. Donc ce n'est pas une contradiction par rapport à ce que vous avez dit, c'est une nuance par rapport à ce que vous avez dit que j'apporte par ces précisions.
La Constitution de 1958 est une belle mécanique qui apporte trois éléments nouveaux. D'abord, un exécutif renforcé qui tire légèrement au début vers le régime présidentiel, mais qui ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Une mise en surveillance du Parlement, notamment avec la création du fameux domaine de la loi auquel maintenant nous sommes tout à fait habitués. Et enfin, la création du Conseil consultatif constitutionnel. Lorsque nous avons préparé cette émission, je vous ai dit, la Constitution de 58, c'est une belle horlogerie, c'est une mécanique magnifique. Et vous m'avez répondu, c'est une mécanique ambiguë.
Eh bien, je confirme, c'est une mécanique ambiguë, une mécanique compliquée. Et c'est peut-être par cette ambiguïté et par cette complexité qu'elle a pu survivre. Je pense notamment aux périodes de cohabitation. Phénomène désastreux, disait mon prédécesseur Jean Foyer, et on peut le suivre dans cette qualification à certains égards. Mais néanmoins, ce sont les mécanismes de la Constitution qui ont permis de passer cette époque, ces trois périodes un peu difficiles, où à la tête de l'État d'une part et à la tête du gouvernement d'autre part se trouvaient des autorités ayant des orientations politiques différentes, pour ne pas dire opposées. Mais les textes ont permis à ces situations de se poursuivre. Mais je crois qu'aussi, au-delà des textes, il y a eu la volonté des hommes de faire vivre les textes et de ne pas aboutir à une situation d'éclatement qui n'était pas absolument exclue dans des périodes de ce genre.
Lors d'une séance de travail de l'Académie, vous avez évoqué la difficulté, l'ambiguïté, encore une fois, de cet exécutif renforcé, mais qui reste bicéphale, d'une part avec un président de la République, élu par le peuple maintenant, et un premier ministre qui représente, ou qui est censé représenter, une majorité parlementaire. Et vous avez dit que c'était une particularité française qui n'était pas totalement maniable, je dirais.
C'est une particularité française, c'est une particularité de la Constitution de 1958, en tout cas. Et vous avez, à très juste titre, souligné la dualité de l'exécutif avec le président de la République et le premier ministre. Le président de la République est élu initialement par un corps électoral qui était lui-même désigné au suffrage universel, mais le président de la République ne résultait que de l'élection au suffrage universel indirect. Le Premier ministre, lui, n'est jamais issu du suffrage universel. Il a pu être élu député, c'est le cas actuellement de M. Fillon, mais ce n'est pas en tant que Premier ministre qu'il a été désigné par le suffrage universel. Le Premier ministre, vous l'avez rappelé, est désigné par le Président de la République en fonction de données qui sont des données politiques et plus particulièrement parlementaires. C'est pour tenir compte de la situation parlementaire et le problème et la solution s'est renforcée avec l'évolution de la Ve République. À l'origine, il n'y avait pas de majorité parlementaire très exactement, j'allais dire focalisée, en tout cas unifiée, ce qui permettait au président de la République un choix peut-être plus grand qu'aujourd'hui. Je pense à la désignation de M. Debré, puis à celle de M. Pompidou par le général de Gaulle. Le président de la République avait un large choix pour déterminer le Premier ministre qu'il allait nommer. Et aujourd'hui encore, le président de la République, alors même qu'il y a une majorité parlementaire beaucoup plus forte, a une possibilité de choisir qui est assez diversifiée. On l'a bien vu lorsque le nouveau gouvernement de M. Fillon a été renommé récemment. Il avait été question que le président de la République choisisse un autre Premier ministre que le Premier ministre sortant. Il a décidé de reprendre M. Fillon, mais il était parfaitement possible qu'il désigne quelqu'un d'autre. Il y avait un choix à sa disposition. Et on voit bien là que si l'existence d'une majorité parlementaire conditionne dans une certaine mesure le choix du président de la République, parmi les différentes solutions possibles, le président de la République peut déterminer avec une certaine liberté l'homme qui sera son premier ministre et les hommes qui seront ses ministres.
La longévité tout à fait spectaculaire du poste de Premier ministre de François Fillon démontre d'une certaine manière que la complémentarité président de la République et son Premier ministre est une équipe qui fonctionne bien apparemment.
Je ne peux pas faire autrement que de dire comme vous, apparemment. Je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir et je n'ai pas de familiarité avec le gouvernement. Il semble que le système fonctionne. On a cependant dit à un certain moment qu'il y a pu y avoir un certain tirage entre Matignon et l'Élysée. Et le mot tirage, d'ailleurs, peut être employé dans deux termes. Quelques tensions, peut-être, entre le gouvernement et l'Élysée, mais aussi le tirage peut désigner l'attraction vers la présidence de la République d'un certain nombre d'affaires, d'un certain nombre de dossiers où le Premier ministre n'avait qu'un rôle secondaire, les décisions étant prises véritablement au niveau de la présidence de la République. Je pense qu'aujourd'hui encore, le président de la République joue un rôle déterminant pour arrêter les grandes décisions, pour tracer la politique de la France. Mais il semble que, je ne parle qu'à partir d'Ondi, pas qu'à partir en tout cas de ce que dit la presse, il semble que les prises de position du Premier ministre soient dans la détermination des solutions plus importantes que naguère. Mais là encore, ce que je vous dis ne peut être considéré comme une vérité absolue. Il faudrait être dans les institutions pour pouvoir parler, et on en saura beaucoup plus lorsque les historiens et peut-être les mémorialistes auront parlé et écrit.
Peut-être ou peut-être pas, mais il est un peu normal qu'entre deux hommes de pouvoir, il y ait de temps en temps des divergences de vues et d'interprétations. Ça me paraît très humain. Le contraire serait inquiétant, peut-être.
Oui, mais nous sommes en présence d'une équipe qui, quand même, fait partie du même mouvement,
oui,
de la même orientation politique. Donc, les divergences ne peuvent pas être fondamentales.
Oui. D'après la Constitution, c'est le gouvernement et le Premier ministre qui, je cite, déterminent et conduisent la politique de la nation. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ?
C'est vrai à certaines époques. Mais ça ne l'est pas aux époques où il y a une coordination exacte entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, entre les orientations du président de la République et celles du Premier ministre. Alors, on pouvait se demander, lorsque la Constitution a été révisée en 2008, s'il n'y avait pas lieu de supprimer ou de modifier les termes de l'article 20 de la Constitution que vous avez rappelé, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Et d'après ce que je crois savoir, alors qu'il y a eu des rédactions en ce sens, il y a été renoncé pour préserver les hypothèses dans lesquelles de nouvelles cohabitations devrait se réaliser. Et dans le cas où il y a un président de la République d'une certaine tendance et un Premier ministre et un gouvernement d'une autre tendance, la formule « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » garde toute sa valeur. On l'a vu pour les cohabitations précédentes, on pourrait le voir dans une éventuelle nouvelle cohabitation. Donc l'article 20, dont l'application est inexacte aujourd'hui, peut se révéler de nouveau utile et exact dans d'autres circonstances.
Oui, très utile pour préserver les possibilités de pouvoir et d'intervention du gouvernement.
Exactement.
Lorsque le président de la République et son Premier ministre sont de la même tendance, donc la mécanique de la Constitution fonctionne.
Et c'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et c'est encore plus vrai du temps de M. Sarkozy, peut-être, que du temps d'autres présidents de la République qui, dans certains cas, avaient pu laisser des coudées peut-être un peu plus franches au gouvernement.
Par contre, lorsqu'ils sont de tendances opposées, est-ce que ça n'a pas un effet de blocage ? On a le sentiment que la France a fait du surplace pendant un certain temps, notamment pour des réformes importantes. Et est-ce qu'en période préélectorale présidentielle, est-ce que le Premier ministre ne peut pas devenir, en quelque sorte, l'ennemi de son président ?
Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses comme vous le faites. La vie ordinaire d'un gouvernement dit de cohabitation et la vie du gouvernement à l'approche d'élections. Alors, dans la vie ordinaire, il peut y avoir des possibilités de blocage, mais qui peuvent être surmontées. Je vais prendre l'exemple de la cohabitation entre 1986 et 1988, lorsque le gouvernement que dirigeait M. Chirac a voulu procéder à certaines réformes dans le domaine des privatisations et dans le domaine électoral. Le gouvernement s'est fait attribuer par le Parlement une habilitation pour prendre par ordonnance des mesures de privatisation et pour prendre par ordonnance des mesures de réforme du régime électoral. Et le président de la République, qui au terme de l'article 13 de la Constitution signe les ordonnances parce qu'elles sont délibérées en Conseil des ministres, a officiellement dit, c'était au cours d'un entretien télévisé un peu solennel le 14 juillet, dit qu'il ne signerait pas ces ordonnances. Et donc, la politique du gouvernement se trouvait bloquée par ce refus de signer des ordonnances dont l'objet était important dans la politique du gouvernement. Eh bien, cette opposition a été surmontée. Le gouvernement est revenu vers le Parlement et a fait voter par le Parlement, dans l'exercice de son pouvoir législatif, les dispositions législatives nécessaires pour procéder à des privatisations et pour procéder à une réforme du régime électoral de l'Assemblée nationale. Donc il y a eu un blocage momentané, mais il a été surmonté. Il a été surmonté par des procédés juridiques et politiques dans l'application normale des dispositions constitutionnelles.
Ce que vous dites évoque un principe, c'est que très souvent, on présente l'exécutif et le législatif, le Parlement, comme des sortes d'ennemis. Mais c'est absolument faux. Il y a une collaboration de travail, il y a des consultations permanentes entre les deux pouvoirs. Et justement, on arrive à des compromis, on arrive à un travail commun qui permet d'aboutir et de faire avancer les choses.
Ben, vous avez parfaitement raison de dire que la présentation de l'exécutif et du législatif comme deux organes qui sont opposés l'un à l'autre est une présentation radicalement fausse.
Fausse.
Elle est fausse en Grande-Bretagne, où le Parlement, plus précisément la Chambre des communes, comporte une majorité dont le chef devient le Premier ministre, et la Chambre de communes est, j'allais dire, le mot est peut-être un peu exagéré, mais est l'instrument législatif de l'exécution de la politique déterminée par le Premier ministre et son gouvernement. Ben, transposons cette analyse en France, et il est vrai que compte tenu de la nécessité que le gouvernement ait une coloration politique conforme aux résultats des élections à l'Assemblée nationale, il y a une étroite relation entre la politique gouvernementale et l'œuvre législative. Et cette étroite relation, elle est illustrée particulièrement par l'importance des projets de loi qui sont tous, par définition, l'émanation du gouvernement et qui sont ensuite adoptés par le Parlement. Cela ne veut pas dire que le Parlement n'ait pas son rôle dans l'appréciation du contenu du projet de loi. Il peut procéder par amendement, à des modifications, éventuellement, il peut refuser telle ou telle position, mais fondamentalement, l'œuvre législative du Parlement en France comme en Grande-Bretagne est la mise en œuvre de la politique du gouvernement, puisque l'un et l'autre sont issus de la même majorité et pour faire la même politique. Donc, cette présentation de deux organes qui seraient en opposition l'un avec l'autre est une présentation qui est fausse en France, en Grande-Bretagne. Elle peut ne pas l'être dans d'autres États, et je pense aux États-Unis, où le Congrès américain, dans ses deux chambres, la Chambre des représentants ou le Sénat, peut avoir une composition politique différente de celle qui a conduit à l'élection du président des États-Unis, mais nous sommes dans cette hypothèse, dans un régime qui est un régime présidentiel, alors que, comme vous l'avez rappelé en commençant, nous ne sommes pas en France dans un régime présidentiel. Il y a des aspects que j'appellerais présidentialiste compte tenu de l'importance de la place du président de la République dans nos institutions, mais fondamentalement, notre régime est marqué par des aspects parlementaires qui se combinent avec des aspects présidentiels.
Pensez-vous que la France pourrait, comme on le lit quelquefois dans la presse, évoluer vers un régime purement présidentiel ? Personnellement, je pense que ce serait une pure catastrophe, vu la mentalité française. Mais on peut imaginer cette évolution.
Madame, la question que vous soulevez est une question qui revient périodiquement et je dirais de manière un peu cinglante, non pas à votre égard, mais à l'égard de ceux qui développe ce thème, que c'est une tarte à la crème. Je crois que nous avons connu un régime présidentiel, c'est celui de la Deuxième République, qui s'est terminé par une catastrophe, compte tenu du blocage entre l'Assemblée parlementaire et le président de la République. La solution, ça a été le coup d'État. Notre Constitution de 1958, qui comporte certainement des imperfections, a l'avantage, et je reviens sur le terme que vous aviez déjà relevé, l'avantage de l'ambiguïté. Et donc, d'une possibilité, selon les cas, selon la situation des forces politiques, de jouer des différents articles de la Constitution pour tantôt permettre un président de la République fort d'une majorité de s'imposer, c'est le cas actuellement, tantôt, en revanche, un Premier ministre qui n'est pas de la même couleur que le président de la République, de s'imposer et de s'imposer au président de la République lui-même. Donc, toutes ces grandes déclarations sur la nécessité de changer de régime, de passer à une sixième République, qui sont des thèmes récurrents, qui font bien vendre en tout cas les magazines, tous ces thèmes me paraissent maintenant éculés. Nous avons une constitution qui n'est pas parfaite, mais une constitution qui nous a permis de vivre depuis 50 ans à travers des crises dont certaines ont été graves. Gardons cet instrument qui est un instrument malléable.
Alors, puisque je tiens dans mes griffes un très grand spécialiste, je vais vous poser une question aussi ambiguë que la Constitution. La règle de droit est-elle malléable ?
J'ai peur, madame, d'être dans vos griffes. Et la question que vous dites et que vous posez est redoutable. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Je viens de parler de la Constitution, de son ambiguïté, et c'est à partir de là que vous m'avez posé la question de la malléabilité de la règle de droit. La Constitution de 1958 institue un régime qui est malléable. Est-ce que cela veut dire que la règle de droit est en elle-même malléable ? Alors, si vous parlez de la règle de droit en général, avec un grand R, avec un grand D, et la majesté que cela implique, non, la règle de droit apparaît comme un absolu. L'état de droit apparaît comme un absolu auquel toutes les personnes doivent se soumettre. Mais lorsque l'on entre dans le détail, non pas de la règle de droit, mais des règles de droit, alors on trouve une variété de solutions, une variété de dispositions, une variété de dispositifs. Je vais prendre un exemple en dehors du domaine du droit public que je connais. Prenez le statut du mariage. Le statut du mariage, il a connu des évolutions. Et le dispositif législatif a varié, sans remonter même à l'Ancien Régime. Il a varié au XIXe siècle, et notamment pendant une période qui est celle de la Restauration jusqu'à 1884, le mariage était indissoluble. Depuis lors a été admis le divorce, les possibilités du divorce ont été élargies, mariage a été substitué, en tout cas a été ajouté d'autres formules comme celle du Pax, pour lequel on peut être favorable ou défavorable, je ne prononce pas sur le fond, mais je constate une malléabilité de l'institution conjugale. Et par conséquent, la règle de droit, le contenu de la règle de droit, peut être modifié selon les options du législateur, selon les besoins sociaux, selon éventuellement l'état des mœurs. Et c'est à cet état que je fais particulièrement référence lorsque je parle du statut du mariage. Donc voilà un exemple très concret de malléabilité du dispositif qui crée une institution importante pour la société.
Votre parallèle est intéressant parce qu'un régime constitutionnel est une sorte de mariage entre le citoyen et les institutions.
Et la Constitution elle-même peut changer. Vous avez dit combien nous avons changé de Constitution depuis 1789. C'est une illustration du caractère mobile, pour ne pas dire malléable, de la Constitution. Une Constitution qui est beaucoup moins malléable, beaucoup moins mobile, c'est celle des États-Unis, qui a connu cependant beaucoup d'amendements est important, mais il n'en reste pas moins que la Constitution des États-Unis, depuis, si je me souviens bien, 1787, est restée le socle inébranlable du système constitutionnel américain, et qui, en dépit des évolutions politiques, économiques, sociales, juridiques, et des amendements, est resté un système qui a une unité à travers l'histoire.
Merci beaucoup, Pierre Delvolvé, de cette belle leçon de droit. À très bientôt, j'espère.
C'est moi qui vous remercie.